Journal des idées, Jacques Meunier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Et on commence ce journal des idées avec le regard perçant et éclairant que porte sur notre pays le philosophe allemand Peter Sloterdijk.
Oui, un pays qu'il connaît bien d'ailleurs, auquel il avait consacré un livre élogieux et personnel, Ma France. Dans les pages débat de l'Obs, il revient avec Marie Lemonnier sur la séquence électorale qui s'achève, en commençant par soulever un paradoxe. Débuter son mandat par une volonté affichée de moralisation de la vie publique lui semble une erreur comparable à celle du jeune Frédéric II de Prusse, écrivant un anti-Machiavel pour réfuter le prince, peu avant d'accéder au trône. Parvenu à l'âge mûr, Frédéric II finira par avouer qu'il s'était égaré dans son projet de moralisation de la vie politique. Mais le philosophe convient que la corruption est un vrai problème en France, une corruption systémique et quasiment ossifiée, qui explique en partie l'abstention massive, due également à ce que Sloterdijk désigne comme un pessimisme de luxe, le privilège de la nation française, cette douce amertume de ne plus croire en la vie politique, système bloqué où la corruption endémique dégage un fumet qui appâte les amateurs de gibier. Rappelant la thèse de Max Weber dans La politique comme métier, une sorte d'éthique du stoïcisme politique, le philosophe évoque la patience, la coopération avec la longue durée et même le forage de planches très dures qu'il semble impossible de percer. Le miracle Macron, c'est qu'il a fait un trou énorme, mais à l'endroit le plus pourri de la planche. C'était une intuition très forte. Quant à l'avenir de la gauche française, à en croire le vote, il serait fort clos. L'État, en tant que tel, est déjà plus socialiste qu'un parti socialiste ne pourrait jamais le devenir, estime le philosophe.
Et une question, le projet d'émancipation porté par la gauche peut-il être réinventé dans ce contexte?
C'est précisément la question que pose Philippe Corcuff dans les pages idées de Libération. Les idéaux d'émancipation, de sortie de l'homme hors de l'État de tutelle, selon l'expression de Kant, formulé dans une perspective républicaine au XVIIIe siècle, puis socialiste au XIXe et XXe siècle, pourrait être réduit à un folklore, s'inquiète le politologue qui évoque le piège infernal Macron-Mélenchon, car les deux se présentent comme des réponses à l'essoufflement oligarchique de la forme parti, tout en exprimant des régressions par rapport à elle, avec des points communs. Un chef crée un mouvement autour de lui en donnant une logique verticale et césariste à la relation au leader. Exit les fragile contre-pouvoir persistant encore dans les partis bureaucratisés sous le marketing de l'anti-système, de la rénovation, de la politique autrement, de la société civile et de la démocratie. Une tutelle unifiée s'installe. Militant libertaire et altermondialiste, Philippe Corcuff estime par ailleurs que le nez dans le guidon, nous n'avons pas compris depuis l'enlisement social-libéral du PS en 1983 ou l'épuisement de la social-démocratie et la chute du mur en 1989 ou la fin des illusions sur le communisme, qu'il s'agissait peut-être du défi de l'invention d'une troisième grande politique d'émancipation après la politique républicaine et la politique socialiste. Pour en répondre, il faudrait explorer un autre chemin plus libertaire, en tenant compte du poids impersonnel, des dominations sur nos vies quotidiennes davantage que des têtes interchangeables à faire tomber, se réinsérer dans l'horizon internationaliste d'un autre monde possible et surtout prendre comme point de départ les initiatives citoyennes, les mouvements sociaux et les expériences alternatives en convergence.
Autre question enfin, l'humanisme a-t-il encore un sens?
C'est la question posée par Pierre Vermeuren à l'occasion de l'hommage rendu à Régis Boyer, professeur de langue, littérature et civilisation scandinave à la Sorbonne, disparu la semaine dernière. Sur le site Figaro Vox, l'historien du Maghreb contemporain se demande si le savant humaniste mêlant tous les savoirs et disciplines, littérature, linguistique, traduction, philologie, grammaire, philosophie, histoire, anthropologie, dans un vaste domaine très ignoré du monde académique, sera encore possible à l'heure où la machine administrative, l'impérialisme des projets de recherche, le classement des articles ou le référencement imposé au monde par l'Amérique, la collecte des financements de la recherche qui occupe des mois dans la vie d'un jeune universitaire, corsette, dévitalise et stérilise la pensée et la réflexion. Et Régis Boyer, le passeur en français d'Andersen ou des sagas islandaises, de l'aventure des Vikings ou de la philosophie de Kierkegaard, dont la traduction intégrale est attendue prochainement à la Pléiade, pourrait-il aujourd'hui imposer à l'université ses études scandinaves dont la richesse n'a d'égal que la confidentialité? Il est permis d'en douter. L'humanisme a fini de mourir à la fin du XXe siècle, affirme Pierre Vermeuren, quand l'appauvrissement économique s'est ajouté à la tyrannie administrative, puis électronique, qui en sert aujourd'hui lui toute carrière universitaire.
Merci Jacques Munier. À demain pour un autre journal des idées. Il est 6h45 sur France Culture.